suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Chaque année, à pareille époque, le Festival de Cannes offre sans doute, et nonobstant son caractère résolument international, l'une des meilleures occasions de saisir quelque chose comme le cinéma français, notamment dans son contraste avec les autres cinématographies mondiales et surtout leur mode de production. Car Cannes, c'est avant tout des auteurs, les réalisateurs des films, dont les noms sont particulièrement mis en avant, en valeur. L'occasion de s'interroger donc sur cette politique des auteurs, héritée de la phase critique de la Nouvelle Vague et transmuée en une politique publique des auteurs qui fait la spécificité de ce système du cinéma français dont nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées. Olivier Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chercheur associé au Centre d'études des mouvements sociaux et vous publiez aux éditions de l'École des études en sciences sociales dans la collection 4 figures, La règle de l'exception, écologie du cinéma français. Alors c'est une enquête sur le cinéma français, le système du cinéma français, celui qui est marqué, comme je le rappelais, comme vous le rappelez dans votre livre, par ce qu'on appelle les auteurs. On va évidemment entrer dans le détail et dans l'histoire et dans l'application concrète de cette expression et surtout dans ses effets, dans ses conséquences concrètes, économiques et dans le mode d'organisation de ce monde. Alors j'ai sans doute un peu forcé le trait en disant qu'on voyait au moment de Cannes mis en scène, mis en valeur ce monde, cette famille du cinéma français. On n'en voit qu'une partie parce qu'en fait elle est immense. Certes, elle est globalement assez présente au festival, à peu près tous ceux qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre, tous les types de métiers ou de fonctions qui sont impliqués se retrouvent à Cannes. Mais le grand public, lui, ne voit pas véritablement ce collectif, ces cercles concentriques dont vous parlez dans cette enquête. Alors, ce qui fait l'originalité de votre enquête, c'est que c'est une enquête sociologique sur un domaine, finalement, sur lequel on sait assez peu de choses de ce point de vue-là, parce que c'est un monde qui aime bien se mettre en scène, comme à Cannes, mais qui aime bien aussi garder des secrets qui sont assez souvent difficile à percer. Alors comment vous y êtes pris pour mener cette enquête de sociologie, Olivier Alexandre ?
Alors, c'est assez simple, en me couchant tard et en me levant assez tôt pour essayer d'appréhender ce milieu qui effectivement présente un certain nombre de spécificités, de caractéristiques, de paradoxes aussi, hein, puisque comme vous l'avez dit, c'est un monde extrêmement visible, qui aime se représenter, mais en même temps qui est très secret, qui est très cadenassé. C'est un monde qui incarne l'ouverture. Hein. Le cinéma français aime accueillir et projeter une image extrêmement puissante. Et en même temps, c'est un milieu socialement relativement fermé. Et ce qui représente un défi, un challenge hein, même, comme on pourrait dire, aux États-Unis pour le chercheur. D'autant plus quand, a priori, on n'est pas issu de ce milieu-là et qu'on essaye de faire une sociologie, disons, si ce n'est des professions, du moins des professionnels, puisque il y a tout un courant hein, des sciences sociales qui se saisit du cinéma depuis Edgar Morin, en passant par Marc Ferraud, Pierre Sorlin et aujourd'hui un certain nombre de travaux, mais qui s'attachent davantage au cinéma en tant que représentation. Là, le sens de l'enquête, essayer de comprendre comment ce monde fonctionnait, par rapport à quel fondement et selon quel pilier.
Alors on va voir qu'il y a aussi à l'œuvre des enjeux plus théoriques pour les sciences sociales, pour la sociologie en particulier, puisque c'est un univers assez peu abordé pour un certain nombre de concepts, en tout cas, moins que les arts plastiques ou la littérature, qui sont traditionnellement des terrains d'enquête fréquents. Et donc là, vous avez à la fois procédé par entretien, accumulé une documentation très importante pour essayer de décrire les aspects économiques et sociaux de cet univers, mais aussi esthétique. Je voudrais qu'on reparte de cette idée d'auteur, parce qu'on l'utilise un peu n'importe comment. On sait que ça vient de la Nouvelle Vague, ou plutôt du moment où ceux qui allaient faire le cinéma de la Nouvelle Vague étaient de jeunes critiques, écrivaient dans les cahiers du cinéma, et pour lesquels, en translatant ce mot de l'univers littéraire, il était important d'insister sur un rôle parmi tous ceux qu'on voit à la fin d'un générique de film, hein, qui peut donner une idée du travail collectif qu'est la production d'un film, ou sa réalisation. Donc le réalisateur. Et en fait, à partir de là, est née cette expression politique des auteurs. Et on a le sentiment, c'est l'hypothèse que je faisais, je l'utilisais peut-être de façon un peu sauvage, qu'on est passé de ce concept un peu esthétique, critique, politique des auteurs, à ce qu'on pourrait qualifier de politique publique des auteurs, c'est-à-dire le fait d'installer dans des mécanismes institutionnels, économiques, dans des dispositifs, au fond, cette primauté accordée à ce rôle-là.
Oui, je pense qu'on peut en faire plus qu'une hypothèse, hein, puisque les choses se sont un peu passées dans ce sens-là. Le problème, dès qu'on touche à l'auteur, c'est qu'on est pris dans des querelles esthétiques, dans des querelles sociales relativement difficiles à trancher pour le sociologue. Moi, ce que j'ai essayé de faire de façon pratique, je n'ose dire pragmatique, c'est d'essayer de comprendre comment ce terme vivait, s'appliquait, jouait dans la vie sociale des films. Et de ce point de vue-là, la Nouvelle Vague a un rôle extrêmement ambivalent, puisque à la fois, elle opère comme une mythologie, et là, j'utilise le terme plutôt au sens anthropologique qu'au sens de Barthes, c'est-à-dire comme un récit des origines. Extrêmement puissant d'un point de vue culturel pour le cinéma, c'est-à-dire que très souvent, dans ce milieu, on se réfère à cette révolution symbolique de la Nouvelle Vague et cette idée que le cinéma est un art, que cet art dépend de la vision d'un metteur en scène et que ce metteur en scène doit être la figure, le capitaine du projet en tout état de cause sur le bateau qu'est la réalisation filmique. Je parle de mythologie parce que en réalité, le système dans lequel on vit depuis en gros une trentaine d'années trouve son origine dans un dispositif, une série de dispositifs même extrêmement sophistiqué, imbriqué, encastré, qui trouve sa source tout d'abord à l'origine après la Seconde Guerre mondiale avec la taxe spéciale additionnelle, hein, cette espèce de cheval de Troie ou de bouclier du cinéma français, hein, pour essayer de contrebalancer l'influence et l'arrivée du cinéma massive du cinéma américain sur les rives françaises. Et puis après, à la fin des années 1970, au moment où la télévision prend le pouvoir, hein, dans l'échelle des médias, on a la mise en place d'une politique sériée, séquencée, qui imbrique à la fois comment dire, des leviers, des dispositifs qui vont relier la télévision, le cinéma, les milieux de la finance, les pouvoirs publics, évidemment, hein, puisqu'on parle souvent d'un financement, à tort à mon avis, d'un financement abondant du public pour le cinéma. Ce qui fait qu'on a comme ça une économie gonflée à partir de séries d'encastrements et d'apports d'investissements venant d'autres domaines, ce qui évidemment pose la question de qui fait la spécificité sociale, sociologique de ce milieu et qui nous renvoie à toute une tradition de publication en sociologie de l'art et de la culture.
On va revenir sur la description de ces cercles, de ce monde du cinéma en quelque sorte, parce que vous faites la référence au concept de monde de l'art, hein, de Ward Baker, qui, avec un sociologue des professions comme Abbott, qui sera bientôt à la suite dans les idées d'ailleurs, vous aide à penser et à décrire cet univers. Mais je voudrais continuer sur cette idée d'auteur, parce que vous signez quelque chose de paradoxal, au fond, très très tôt dans votre livre, par rapport aux effets produits par ce système. La politique des auteurs entendue par ces critiques avait pour conséquence, du point de vue de la politique éditoriale de la revue qu'il dirigeait, mais on peut l'observer dans beaucoup d'autres journaux par la suite, dès lors qu'on considère que le réalisateur est à privilégier en quelque sorte, eh bien on va se mettre à observer chacun des films faits par cette personne et porter un regard, avoir nourrir une attente d'ailleurs par rapport au prochain film et être capable de dire que un film est peut-être moins bon que celui d'avant et que au contraire meilleur, etc. Mais en tous les cas, à faire attention à une trajectoire, à une œuvre qui se bâtit œuvre après œuvre, film après film, quelque chose comme une œuvre avec majuscule. Et or, cette attitude qu'on retrouve encore aujourd'hui dans beaucoup de journaux qui font attention au cinéma et qui font attention aux auteurs auxquels ils tiennent jusqu'au moment où peut-être parfois ils les lâchent, mais en tous les cas ça dure longtemps, c'est pas du tout ce qui se passe dans l'univers économique qui fait attention aux auteurs, mais plus précisément fait attention à ceux qui deviennent auteurs et porte une attention particulière aux impétrants, aux premiers films et n'arrive pas à enclencher ce qu'on appelle une politique des auteurs entendue comme ce regard soutenu dans le temps.
Alors, il faudrait reprendre les choses dans le détail à partir d'une source qui, à mon avis, tout à fait essentielle, qui est le système juridique, juridictionnel, pour reprendre la notion d'Abbott, du cinéma français. En l'occurrence, elle a un fondement, c'est celui du droit d'auteur. Et le droit d'auteur, il est à entendre en tant que tel. C'est-à-dire qu'il est impossible en France de sortir un film sans l'accord, sans l'autorisation du réalisateur. Ce qui est tout à fait incongru par rapport à d'autres territoires, notamment à Hollywood, où c'est le producteur, les financeurs, les financiers, les studios qui ont la main sur les projets.
D'où la notion de director's cut, etc.
Exactement. Quelle est la conséquence concrète de cette affaire? C'est que au sein du milieu, l'auteur est envisagé un petit peu sur un mode instrumental plus que sur le mode de l'enchantement et de la croyance. Et ce qui implique tout un résultats de stratégie, de cynisme, de calcul, de passion tantôt souriante, tantôt triste, qui font que pour toutes les personnes agrégées autour des auteurs, des talents, des réalisateurs, il s'agit d'utiliser les réalisateurs comme un moyen de produire leur activité, que ce soit pour les différentes catégories, les producteurs, les distributeurs, les exploitants, etc. Et ce qui fait qu'on a parfois des actions contre-efficaces, contre-intuitives, à contre-pente de, effectivement, cet idéal porté par la nouvelle vague, qui revient à dire que les cinéastes, comme les auteurs de littérature, comme les peintres du 19e siècle, construisent une œuvre, élaborent une œuvre dans le temps. Or, dans le cinéma, qu'est-ce qu'on voit ? C'est très souvent des gens qui rentrent, des réalisateurs qui rentrent, qui font un ou deux films, trois films éventuellement, puis qui sortent. Alors que les intermédiaires sont des personnes beaucoup plus stables par rapport à ces talents-là. Et ce turnover accéléré conduit à affirmer le principe glorieux et moral de la nouvelle vague.
Alors, il y a une phrase que vous avez placée en exergue du premier chapitre de votre livre et que je trouve extraordinairement importante. C'est une phrase de Michel Sédoux, le PDG de Gaumont, qui est récente, hein, une phrase qui date de juin 2013. « Quand je suis arrivé dans le cinéma avait un ennemi, la télévision, et mes confrères rêvaient d'une grève de l'ORTF pour remplir les salles. » Ça en dit long sur cette relation conflictuelle d'une part avec la télévision et d'autre part la manière qui a été inventée au début des années 80 pour sortir de cette situation en instrumentalisant la télévision sans pour autant fusionner véritablement avec elle. Et contrairement à ce qui s'est passé historiquement en Grande-Bretagne où la BBC a produit des films, il n'y a pas finalement la distinction téléfilm, ça n'existe pas vraiment comme en France, et aux États-Unis où on a vu des chaînes de télévision naître et devenir très très importantes dans la production de nouveaux objets éditoriaux. Aujourd'hui on le voit de façon massive avec les séries, mais et c'est ça qui fait cette singularité en particulier du système français, c'est-à-dire cette espèce de système d'alliance conflictuelle résolue en quelque sorte avec la télévision.
Le cas français est vraiment singulier. Je parle je titre la règle de l'exception. L'exception, elle est aussi à entendre dans ce terme-là. C'est-à-dire que si on observe un peu les choses sur 30 ans, on voit que les grandes cinématographies, que sont le cinéma italien, le cinéma britannique, le cinéma allemand, le cinéma russe, mais pour d'autres raisons, ont un peu disparu, alors même que le tissu industriel s'est maintenu. S'il a disparu, c'est essentiellement parce qu'il s'est fait absorber par la télévision. Et de ce point de vue-là, Berlusconi est à la fois un emblème, un artisan de cette évolution. Aux États-Unis, on a une tendance un petit peu différente qui a consisté à imbriquer les différentes économies audiovisuelles allant du cinéma jusqu'au parc d'attractions. C'est le modèle Disney. En France, du fait du rôle extrêmement important du politique, hein, de la dimension administrée du cinéma, le modèle est un petit peu différent. En l'occurrence, il est double et paradoxal, c'est-à-dire qu'à la fois, le cinéma français repose sur un encastrement avec l'économie de l'audiovisuel. Vous avez tout un tas de dispositifs qui structurent des investissements réguliers dans le cinéma, et Canal+ étant, de ce point de vue-là, vraiment la pierre de touche de l'ensemble. Et en même temps, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue subjectif, vous avez une sanctuarisation du cinéma, c'est-à-dire que très longtemps, alors aujourd'hui depuis quelques années, hein, depuis en gros la fin des années 2000, il y a une évolution, une inflexion par rapport à ça, mais très longtemps, les cinéastes ne voulaient pas travailler dans l'espace de création de la télévision, jugé comme dégradé, un petit peu vulgaire, contrairement à ce qu'on voyait et qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, où il y a de constants allers-retours entre la grande image et le petit écran.
Ah, il y a des exceptions. Vous consacrez un très beau chapitre à quelqu'un qu'on connaît bien à France Culture, qui est Pierre Chevalier, et qui a joué un rôle essentiel dans ces transformations et ces nouvelles relations engagées entre une chaîne de télévision bien particulière qui est Arte et le monde du cinéma, et en particulier une génération de nouveaux réalisateurs qui a trouvé là l'occasion de faire des premiers films ou des seconds films, enfin en tous les cas d'avancer dans des conditions un petit peu différentes de celles qu'ils pouvaient trouver habituellement. Mais alors revenons, Olivier Alexandre, sur le rôle du public. Vous disiez tout à l'heure, on a tendance à penser qu'il y a beaucoup d'argent public injecté dans le système. Effectivement, c'est pas tant de l'argent public que de la politique publique qui a été injectée. C'est-à-dire, au fond, une capacité à mettre en œuvre des règles du jeu, qui ont produit des effets, un petit peu comme la loi sur le prix unique du livre, on l'a fait d'ailleurs dans un autre secteur. C'est-à-dire que ça ne coûte pas un centime à l'État, mais une ingénierie culturelle publique, en quelque sorte, a forcé les acteurs économiques à agir de telle ou telle manière. Et donc là, on peut véritablement parler de politique publique du cinéma, qui a même, en quelque sorte, non pas seulement encadré des pratiques existantes, mais véritablement produit de nouveaux comportements, en quelque sorte.
Alors, oui, tout à fait. En même temps, j'apporterai quelques précisions par rapport à ça. En gros, je parlais de mythologie tout à l'heure. Il y a deux grandes mythologies, deux grands types de mythologie dans le cinéma français. La première, c'est la révolution symbolique avec la nouvelle vague, puis la nouvelle vague, hein, portée, incarnée par la génération d'Arnaud Desplechin, qui, à mon sens, est erronée, puisque avec Arnaud Desplechin, on a vraiment une génération, une cohorte d'insiders et non pas d'outsiders, comme c'était le cas avec la nouvelle vague. Il faut essayer de penser la configuration sociale qu'il y a derrière ça. Il est extrêmement tentant de réduire cette configuration sociale à l'action d'un grand homme, d'un seul homme. Jack Lang, en l'occurrence, offrant un visage immédiat, prégnant. En réalité, cette politique publique, elle est le produit un petit peu chaotique d'une configuration elle-même à la fois qui allie des alliés objectifs, mais très souvent opposés subjectivement. On trouve des lignages qui mêlent à la fois plutôt des profils libéraux, type Jacques Attali, type Marc Tessier. On trouve également, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé avec les milieux économiques, avec les médias, depuis le centre qui était le pouvoir à l'époque, Matignon et l'Élysée. On trouve également des profils d'énarques culturels, Jérôme Clément, qui a dirigé longtemps Arte. Et on trouve également un entrepreneuriat, un patronat cinématographique. Vous parliez de Nicolas Sédoux tout à l'heure. C'est un des principaux représentants de cette catégorie. Et ces trois groupes, hein, finalement, ont œuvré pendant plusieurs années, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'un certain nombre sont en place, pour essayer de penser successivement à chaque nouveau choc exogène qu'a représenté la vidéo, aujourd'hui le numérique, pour essayer de solidifier, de sophistiquer un système extrêmement cohérent.
Alors, vous disiez énarque culturel. En fait, ce qui frappe quand on regarde, par exemple, on peut regarder la liste, vous faites le tableau des gens qui ont dirigé ou présidé le CNC, et plus largement, dans ces instances de décision importantes du cinéma français, on trouve des énarques, mais qui sont même des inspecteurs des finances, par exemple. Donc, il y a quelque chose d'assez étonnant. Vous rappelez à un moment que, contrairement peut-être aussi à ce qu'on imagine, économiquement, le secteur du cinéma pèse plus de trois fois moins lourd que celui du livre. En France, il pèse moins lourd que celui du jeu vidéo. C'est pas si important que ça, en tous les cas, en poids économique. Mais il doit bien y avoir autre chose qui permet d'expliquer ce poids symbolique qui fait qu'on voit arriver dans ce secteur des acteurs sociaux qui sont dotés de capitaux, de propriétés sociales qu'ils ont acquises, assez rares, hein, inspecteurs des finances, il n'y en a pas tant que ça, choisir ce type de poste, ce type de carrière, plutôt que d'aller à la direction du Trésor à Bercy ou à la tête de grandes entreprises qui ont des chiffres d'affaires à elles seules, autrement plus important que l'ensemble du secteur du cinéma en France.
Non, c'est un des autres paradoxes du cinéma français, d'avoir à la fois un poids symbolique incomparable. En ce moment, il y a le Festival de Cannes. Je vous mets au défi d'aller au Festival de l'audiovisuel qu'il peut y avoir à Biarritz ou à La Rochelle, ou au Festival de la bande dessinée ou à tout autre festival des industries culturelles, pour trouver un tel rayonnement, une telle focalisation des médias, puisque Cannes est le deuxième événement le plus médiatisé après les Jeux Olympiques. Et en même temps, paradoxalement, le poids financier, hein, l'assiette financière du cinéma est extrêmement faible, vous le disiez. Elle est 10 fois moindre que l'audiovisuel, beaucoup moins que le livre, et très longtemps, elle a été également inférieure à l'industrie de la musique. Et plus étonnant encore, elle est également moins importante que l'échelle des jeux vidéo. La question, c'est effectivement comment comprendre cette attraction que joue le cinéma. Très bêtement, c'est qu'elle joue de son image, sans jouer sur les mots. Et en l'occurrence, ce qu'il faut bien comprendre dans ce modèle français, c'est qu'il s'accompagne aussi d'un mouvement plus général, plus global, de la politique culturelle et d'une idée que la culture aurait un rôle tout à fait essentiel dans une politique, disons, de gauche, et pour une génération de gauche, dans ce qui constitue le national et dans la façon dont les élites envisageaient le progrès social. On parlait de Jack Lang, de Jérôme Clément, ce sont des gens qui appartiennent à la même génération, qui se sont positionnés très tôt au sein du Parti Socialiste comme des artisans de la culture, en envisageant la culture. Non pas comme un dernier choix à la sortie de l'ENA, mais vraiment comme un premier choix et un domaine des possibles à la fin des années 70.
Il y a une autre chose, il y a beaucoup de choses passionnantes dans votre livre, Olivier Alexandre, sur le monde du cinéma français. Il y a une chose qui frappe quand on la compare avec un autre domaine culturel, c'est, je pense au théâtre, c'est qu'on y trouve, comme dans le théâtre, une dualité entre un pôle artistique et un pôle commercial, pour le dire vite. Dans le théâtre, c'est flagrant, entre le théâtre public et le théâtre privé, c'est deux univers qui communiquent très très peu, mais qui du coup ne se renforce pas mutuellement, ne contribue pas à faire exister quelque chose qui les dépasse l'un et l'autre et qui s'appelle le théâtre, alors que c'est précisément ça qui se passe dans le cinéma, c'est-à-dire qu'on voit ces dualités, on voit ces oppositions, vous les montrez, mais si on s'arrête au caractère conflictuel de ces oppositions, on ne comprend pas véritablement la manière dont elles font tenir ensemble ce monde du cinéma.
Oui, c'est une autre façon aussi de poser la question de la polarité des champs, de se demander aussi si le cinéma français est un champ.
D'où le test dont je parlais tout à l'heure, un peu théorique par rapport à certains concepts sur ce terrain du cinéma.
Oui, tout à fait. De ce point de vue-là, je pense que c'est important de voir que la majorité des travaux en sociologie de l'art, depuis le travaux d'Harrison White et de Cindy White, jusqu'aux travaux de Pierre Bourdieu, en passant par Pierre-Michel Menger, Raymond Moulin et Howard Becker, se sont centrés sur les arts vivants, les beaux-arts, et non pas des industries culturelles. En l'occurrence, on a effectivement un laboratoire, un objet qui déroge un petit peu aux mécanismes qu'on peut voir par ailleurs, et de façon assez troublante et qui demande un petit peu d'attention, puisque la première image qu'on peut en avoir, c'est précisément une polarité. On parle tout le temps d'un distinguo entre l'industrie et l'art, ou les films d'auteur et le tout venant commercial. En réalité, il y a une réelle transversalité, une translation, vous parliez tout à l'heure de ce terme et de ce mouvement-là, qui tiennent à plusieurs choses. D'une part, si on dépasse le visage des réalisateurs, on s'aperçoit si on regarde les acteurs, si on regarde les techniciens, qu'il y a de constants allers-retours entre les sommets du box-office et les films d'auteurs les plus pauvres. Deuxièmement, vous avez dans le cinéma tout un tas d'organisations, d'institutions tout à fait centrales. Je parlais de Canal+, en ce moment on a le Festival de Cannes, l'Académie des Césars, le CNC assemble les différentes facettes du cinéma. Si bien qu'on est tenté de se demander que faire de cette polarité-là, et on essaye, en l'occurrence, c'est ce que j'essaie de faire, on essaye de la penser en respectant les faits, en essayant de construire un modèle un peu alternatif, en l'occurrence en me reposant sur cette notion d'écologie.
Alors, on peut être frappé quand même de l'absence de propositions alternatives de production en particulier. Parce que quand on regarde ce que vous décrivez, à savoir le fait qu'une très grande majorité des gens qui ont la chance de faire un premier film ont beaucoup moins de chances d'arriver à en faire un deuxième, et sans parler du troisième, qu'il y a beaucoup de sortants dans ce système. Et si on met ça en regard avec le fait que la révolution technologique numérique a fait qu'aujourd'hui on peut produire des images beaucoup, beaucoup moins cher qu'il y a 10 ans ou 15 ans, on est frappé quand même de constater que ces gens, plutôt que d'essayer d'inventer d'autres manières de faire des films, comme c'était le cas de la Nouvelle Vague, d'ailleurs, d'un point de vue technique aussi, en partie à l'époque, préfèrent dépenser une énergie sans borne à faire ce deuxième film dans le système, de manière institutionnelle, en allant taper aux portes des guichets, en attendant parfois 10 ans, ce qui, d'un point de vue artistique, enfin pour une personne, est assez incompréhensible. Enfin, moi, je me surprends parfois à me demander pourquoi ils prennent pas un ordinateur et n'écrivent pas un roman, d'une certaine façon, s'ils portent en eux une œuvre. Alors, vous allez me dire, c'est pas la même chose, certes. Mais enfin, c'est curieux, surtout qu'avec des petites caméras numériques. Comment expliquer ça? Comment expliquer la puissance démontation en fait du système institutionnel sur ce que pourrait être un univers artistique beaucoup plus éclaté en théorie?
On pourrait le dire à la manière de Howard Becker, c'est-à-dire très, très simplement en disant que l'existence même de cette série de dispositifs rend possible, si ce n'est la réussite, du moins la croyance dans le fait qu'on puisse réussir. Ce qui entretient les appétits, les appétences et ce qui présente relativement un contre-pied avec l'histoire du cinéma français qui s'est nourri beaucoup de ces expérimentations et jusqu'aux années 70. Quelqu'un comme Jean-Luc Godard hein, pouvait représenter cette voie alternative.
Il continue d'ailleurs, il fait des films avec des caméras, d'espions ou de...
De façon plus ou moins honnête intellectuellement, c'est-à-dire en étant à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Mais disons que le modèle que j'essaye de décrire dans le livre est un petit peu... étouffer ces poches périphériques, alternatives, qu'on voit ailleurs, hein, dans d'autres pays, que ce soit l'Allemagne, l'Angleterre ou les États-Unis, ce qu'on pourrait appeler le secteur underground. En même temps, je ferai une petite nuance, un petit bémol par rapport à ça, puisque de fait, les nouveaux formats, les nouvelles images poussent, que ce soit dans les galeries d'art contemporain ou de façon plus sauvage sur le net. Hein. Vous avez un déferlement aujourd'hui de ce qu'on appelle les youtubeurs, hein, une espèce d'auberge espagnole qui va de comiques comme Norman fait des vidéos à des youtubeuses beauté, parfaitement anonymes et inconnues des plus de 30 ans que nous sommes, Sylvain Bourmeau, mais extrêmement populaire pour toute une nouvelle génération branchée sur le numérique.
On n'a pas le temps de parler de tout. Il y a un point sur lequel vous insistez aussi, c'est ce paradoxe qui fait qu'on on privilégie donc les premiers films, mais en même temps, on ne prépare absolument pas les gens à faire ce premier film. C'est-à-dire qu'il y a un déficit de formation assez extraordinaire dans notre pays.
Le paradoxe s'explique bien à travers ce que j'ai appelé tout à l'heure la mythologie de la nouvelle vague. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que... un cinéma, c'est un auteur, c'est un point de vue. On n'a pas besoin de penser des dispositifs d'apprentissage. Et d'ailleurs, voilà, Chabrol, Truffaut, Godard ont beaucoup poussé dans ce sens-là, hein, en partie pour des raisons stratégiques, hein, c'est-à-dire essayer de court-circuiter le système de l'assistanat qui, à l'époque, était en place, qui était très long, hein, qui imposait des délais extrêmement longs entre le premier assistant et la possibilité de prendre la caméra en son nom propre. Et ce qui fait que ça devient extrêmement difficile d'avoir la lucidité de se dire je dois à la fois profiter de ce système tout en me protégeant, en n'y croyant pas, en cultivant par moi-même des formes d'apprentissage très concrets et en comprenant que auteur, c'est plusieurs choses. C'est pas seulement une consécration esthétique, c'est aussi une consécration et surtout juridique, et que pour permettre de l'optimiser, on doit à tout prix devenir... l'auteur de sa propre carrière, c'est-à-dire ajouter à des savoir-faire un certain nombre de savoir-être.
Merci beaucoup, Olivier Alexandre, pour cet entretien. Je rappelle le titre de ce livre, beaucoup plus riche que ce dont on a pu parler, parce qu'il y a énormément de choses subtiles dans ce monde du cinéma. La règle de l'exception, écologie du cinéma français, il est publié aux éditions de l'EHESS. On trouve les références sur la page de La Suite dans les idées, sur le site de France Culture. La semaine prochaine, on poursuivra du côté du cinéma, JLG par GDH, soit Jean-Luc Godard par Georges Didi Huberman. C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché d'émission Anaï Morales, à la technique Bruno Gagnère-Fontani, à la réalisation Perret Legras. C'est Jean Deloisy que l'on trouve sur l'antenne de France Culture dans quelques instants.